بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le but de mon intervention dans cet audio, donc c'est de poursuivre le statut du voyageur que nous avions commencé donc la veille dans le dernier audio. Donc je rappelle que la veille nous avions abordé le statut, la fin du statut du malade plus le statut du voyageur. Dans le statut du voyageur, nous avons précisé donc le statut global sur le fait qu'il lui était permis de manger durant les journées du Ramadan pour son statut de voyageur. Et ensuite, on avait expliqué quel était le mieux pour le voyageur en fonction des circonstances. Était-il mieux pour lui de jeûner en fonction de certaines circonstances, ou plutôt était-il mieux pour lui de manger en fonction des circonstances que nous avions citées, donc justement dans l'audio de la veille. Alors à présent, on va s'intéresser donc au moment du début de la permission. Donc à quel moment il lui est permis de commencer à manger, donc pour le voyageur. Et pour répondre à ceci, il y a deux situations pour le voyageur. Donc soit le voyageur décide de prendre son départ de nuit, avec l'intention bien sûr de manger le lendemain. Donc les savants là-dessus sont unanimes, il n'y a pas de souci. Donc s'il démarre son voyage de nuit, effectivement il lui est permis de manger le lendemain toute la journée sans problème, et il est dans le statut de voyageur. L'autre cas de figure, c'est s'il prend son départ de journée. Donc durant la journée, effectivement, s'il prend son départ, là les savants divergent sur la question. Lui était-il possible de manger ou doit-il jeûner? Donc ici, Ibn Qudama, dans le Mourani, donc il nous résume un petit peu les deux avis. Donc le premier avis, donc il ne lui est pas autorisé de manger, il doit jeûner la journée. Donc s'il démarre durant la journée, donc il ne doit pas manger, il doit jeûner. Donc ici, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Abu Hanifa. L'argument est le suivant, c'est qu'effectivement, la journée dans laquelle il va prendre son départ est une journée un petit peu ambiguë, dans le sens où il y a un mélange des genres, c'est un statut résident et en même temps un statut voyageur. Donc en début de journée, il est résident parce qu'il n'est pas encore parti, et dans l'autre partie de la journée, il est voyageur parce qu'il a pris son départ. Et donc les savants considèrent qu'effectivement, lorsque ces deux situations se rejoignent dans la même journée, donc le statut de résident et le statut de voyageur, donc c'est le statut de résident qui l'emporte. Donc Mbeb Terlib, Mbeb Ralaba. Donc ici, effectivement, le fait que les deux statuts se rejoignent dans la même journée, il considère effectivement que c'est le statut de résident qui l'emporte. Et donc, comme il a le statut de résident, donc selon leur avis, effectivement, il doit émettre l'intention la veille également concernant le jeûne. Et donc, s'il rompt son jeûne, à ce moment-là, il aura annulé son action. Il aura annulé son action. Et donc, comme nous le dit Allah dans le Coran, « Wa la tubtilu a'malakum » Donc effectivement, n'annulez pas vos actions. Donc effectivement, donc ici, ça c'est le premier avis. Le deuxième avis autorise au voyageur de manger, quand bien même il a quitté de journée, il a pris son départ durant la journée. Donc si le voyageur quitte son domicile, il prend la route pendant la journée, cette deuxième catégorie de savants considère qu'il lui est autorisé de manger. Et ici c'est l'avis de l'imam Ahmed, Hassan al-Basri, Ibn Taymiyyah. Et c'est également l'avis de notre cher Hafidhahullah, cher Al-Khiyat, donc de la mosquée d'Aluin. Donc il considère donc ce groupe de savants, effectivement, et c'est cet avis, Inch'Allah, qu'on suivra. Donc il lui est autorisé de manger durant cette journée, quand bien même il a quitté de journée son domicile. Et ici, il se base sur plusieurs arguments. Le premier, bien évidemment, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorisation aux voyageurs et aux malades de manger durant les journées de Ramadan. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc le sens global de ce verset donne l'autorisation de manger sans préciser clairement de nuit ou de jour. Donc il se base sur le sens global du verset. Également, deux hadiths qui viennent préciser ce verset et donc la situation dans laquelle il est possible de manger même lorsqu'on fait son départ durant la journée. Et ici c'est le hadith de Jabir, donc deux hadiths rapportés par Muslim al-Bukhari, rahmatullah alayhim. Donc le hadith de Jabir, dans lequel Jabir nous raconte effectivement le départ du prophète sallam avec près de 10 000 compagnons, comme nous le disent les mu'arrikhin, les historiens, pour justement conquérir la Mecque. Donc la fameuse année, l'année 8 de l'Hégire, le prophète sallam sort de Médine, il s'arrête à une station qui s'appelle Qura al-Ghamim, et donc dans cette station, il s'installe et donc il demande un verre d'eau devant tous les compagnons, il lève le verre d'eau et il boit de cette eau. Et donc effectivement, l'objectif ici du prophète sallam est de montrer aux compagnons effectivement qu'il est autorisé de boire, effectivement. Les moufassirines dans ce hadith en particulier nous montrent qu'effectivement certains compagnons avaient justement émis l'intention la veille de jeûner. Et c'est en cela que le prophète sallam veut leur montrer qu'il est permis, malgré ça, de manger et de boire. Car effectivement, l'information lui est parvenue, effectivement, que certains ont continué à jeûner, et il les a qualifiés de désobéissants, oulaïka al-'asat, oulaïka al-'asat, dans le fameux hadith. Donc ils avaient désobéi, comme on l'avait expliqué, effectivement, dans le précédent audio, et ils avaient désobéi à l'ordre du prophète en sallam, mais également, ils s'étaient exposés à un danger, qui était le fait de jeûner, alors qu'ils allaient, justement, à la rencontre de l'ennemi, un ennemi éventuel, justement, lors de la conquête de la Mecque. Dans le deuxième hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, donc qui nous est rapporté également par le Bukhari, nous précise que c'est durant le mois de Ramadan. Donc ici, le faïda, donc l'enseignement ici qui est supplémentaire dans le hadith, c'est qu'il nous précise bien que c'est pendant le Ramadan. Et donc ici, comme je vous l'ai cité, les historiens nous disent clairement qu'effectivement, la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller conquérir la Mecque s'est déroulée pendant l'année 8 de l'Hégire, le 10 du mois de Ramadan. Le 10 du mois de Ramadan, ils sont sortis de Médine et ils sont entrés à la Mecque le 19. Le 19 de Ramadan. Donc voilà concernant les deux hadiths qui nous montrent l'autorisation justement de manger pendant la journée pour celui qui quitte durant la journée. Également, il y a deux autres hadiths qui viennent nous préciser exactement à partir de quel moment il lui est permis de manger, dès son départ. Alors ici, effectivement, il y a le hadith de Muhammad ibn Ka'b qui va nous parler de Anas ibn Malik. Effectivement, donc il nous dit Ataytu fi Ramadan Anas ibn Malikin wa huwa yuridu safaran wa qad ruhilat lahu rahilatuhu wa labisa thiyab as-safar fa da'a bi ta'amin fa akal fa qultu lahu sunnah fa qala sunnatun thumma rakib. Donc ici ce hadith donc authentifié par Cheikh Al-Albani et rapporté par At-Tirmidhi dans son recueil. Donc ici clairement ce hadith vient nous montrer effectivement qu'il est possible pour le voyageur de se nourrir effectivement dès son départ. Alors ici, il y a une précision à apporter, effectivement, et c'est cette précision qu'apporte également Charles Riat, car effectivement c'est son avis, c'est que pour le voyageur, il est permis de manger dès son départ, à condition qu'il est sur le départ. C'est-à-dire qu'il est dans son véhicule, il a démarré et il prend son départ. Il prend son départ à ce moment-là, il lui est permis de manger. Un autre hadith également vient nous confirmer effectivement cette situation. C'est le hadith de Ubayd ibn Jubayr qui nous dit Rakibtu ma'a Abi Basra al-Ghifari, sahibi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fi safinatin min al-fustat, fi shahri Ramadan. Fada'a thumma qarraba ghada'ahu, faqal iqtarib. Faqultu alasta tara al-buyut? Faqala Abu Basra أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. Dans ce hadith, effectivement, on a une autre situation qui nous démontre effectivement que pour le voyageur, il est permis de boire et manger dès son départ, à condition que il soit sur le départ, comme on l'a expliqué. Et ici, on a effectivement le tabi'i, Ubayd ibn Jubayr, qui, justement, rencontre Abu Basra justement sur un bateau et il le voit demander un repas alors que effectivement le bateau n'est pas encore parti, qu'il voit encore les maisons des alentours, et il pose la question: ne vois-tu pas encore les maisons, tu demandes un repas? Et Abu Basra lui répond effectivement: te détournes-tu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Souhaites-tu te détourner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est une question effectivement rhétorique, c'est bien évidemment non. C'est pour faire comprendre effectivement que c'est une sunna et qu'effectivement il faut la préserver. Alors ici, ce que j'ai cité à l'instant, effectivement, c'est l'avis de l'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah kadhalik, et de Charles Riyad, notre imam de la mosquée. Donc effectivement, j'insiste effectivement sur le fait de ne pas tomber dans des dérives dans lesquelles le voyageur pourrait prendre ce repas avant son départ et commencer justement à s'installer tranquillement, à manger son repas, etc. Alors que ses affaires ne sont pas encore prêtes et que son véhicule n'est pas encore chargé, qu'il n'est pas encore parti. Donc à ce moment-là, effectivement, ne pas tomber dans cette dérive. Donc prendre soin effectivement de bien respecter cette recommandation. Ensuite, nous poursuivons donc avec cette dernière partie concernant le voyageur. Donc sur le fait que la permission s'arrête. Donc à quel moment la permission s'arrête pour le voyageur. Et donc ici, si on suit un petit peu l'itinéraire du voyageur, donc il a pris son envol, donc de nuit ou durant la journée. Donc on a expliqué la divergence entre les deux situations, ou plutôt la précision de chaque situation. Et ici, donc à quel moment s'arrête la permission pour ce voyageur? Alors ici, les savants nous expliquent effectivement que dans deux cas, la permission s'arrête. Donc effectivement, lorsqu'il arrive à destination de son voyage et lorsqu'il revient chez lui. Alors on va prendre chacune des situations, chacun des cas. Dans la première situation, lorsqu'il arrive à destination de son voyage. Alors ici, tout dépend de son intention concernant la durée de résidence, donc dans cette fameuse destination. Alors ici, Shawkani, dans son livre, Nil Awtar, donc il nous, justement, explique un petit peu ce point essentiel qui est l'intention. Donc l'intention concernant la durée de résidence. Et donc ici, première situation, c'est le fait que la personne donc a l'intention de rester définitivement dans cette station. Donc elle s'installe, elle déménage et elle s'installe définitivement. Pour elle, la permission de continuer à manger s'arrête. D'accord? Donc elle va devoir jeûner si c'est pendant le Ramadan, bien évidemment. Donc ici, elle va devoir s'arrêter de manger. Et elle n'est plus considérée comme voyageur, car elle a décidé définitivement de s'installer. Ça, c'était la première situation concernant la personne qui arrive à destination. L'autre situation, donc la personne qui arrive à destination de son voyage, c'est qu'elle ne connaît pas la durée précise de son voyage. Donc elle ne connaît pas la durée précise de son voyage. Et surtout, la durée précise de son voyage ne dépend pas d'elle. Dépend d'une affaire qu'elle doit régler. Donc administrative ou autre. Donc effectivement, à ce moment-là, les savants nous disent que la permission se poursuit pour cette personne. Donc le statut de voyageur se poursuit pour cette personne qui justement n'a pas la connaissance de la durée de son séjour. Ensuite, dernière situation, c'est le fait que le voyageur a émis une intention précise sur la durée de son séjour. Et effectivement, ici, les savants divergent justement sur la durée du séjour. Donc les savants divergent sur la durée du séjour. Et effectivement, l'imam Shawkani nous rappelle que cette question est fortement liée à la question sur le raccourcissement des prières du voyageur. Donc, lorsque le raccourcissement des prières, le droit de raccourcir les prières s'arrête, également, le droit de manger s'arrête également. C'est-à-dire que le statut de voyageur est perdu. La personne redevient résidente. Alors ici, la durée du séjour, les savants nous disent que donc le premier avis, si elle est égale à 4 jours et plus, à ce moment-là, il perd le statut de voyageur. Ici, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Donc, ils nous disent concrètement que si la personne fait moins de 4 jours, donc un jour, 2 jours, 3 jours, et elle repart chez elle, à ce moment-là, elle est considérée encore comme voyageur, et donc pendant tout son séjour, elle pourra continuer à manger et raccourcir ses prières. Là, ça c'est le premier avis. Deuxième avis, et donc ce premier avis, effectivement, ce que je n'ai pas précisé, c'est l'avis de l'imam de la mosquée, d'Al-Khayyat, Hafidhahullah. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, qui nous dit, si la durée du séjour total est de 15 jours et plus, à ce moment-là, la permission est levée. C'est-à-dire qu'il ne peut plus manger, et il doit jeûner comme tout le monde. Par contre, s'il fait 13 jours, 14 jours, 11 jours, donc inférieur à 15 jours, à ce moment-là, il est toujours voyageur. Et le dernier avis, c'est l'avis de l'imam Ahmad qui nous dit effectivement que si la personne fait 20 prières et moins, d'accord, à ce moment-là, elle est encore voyageur. Si elle fait plus que 20 prières durant son séjour, à ce moment-là, elle n'est plus voyageur et elle doit jeûner comme tout le monde. Donc ça, c'était concernant la question de celui qui arrive à destination de son voyage. Maintenant, on va prendre le point suivant. Lorsque le voyageur, une fois qu'il a fini son séjour, il rentre chez lui. Donc, il revoyage et il repart chez lui. Lorsqu'il part chez lui, il y a deux situations dans lesquelles peut se trouver le voyageur. Soit il arrive chez lui de nuit, soit il arrive de jour. Alors, s'il arrive de nuit, les savants sont unanimes pour dire effectivement que comme tous les jeûneurs, alhamdoulilah, ils ont jeûné durant la journée, ils arrivent donc la nuit, ils ont l'autorisation de manger, donc lui aussi a l'autorisation de manger, alhamdoulilah. Donc ils sont tous unanimes également pour dire que si le lendemain c'est le Ramadan, effectivement, il a l'obligation de jeûner également comme tout le monde. Alors ici, le point suivant, c'est si le voyageur arrive de journée. S'il arrive de journée, les savants divergent sur le fait de jeûner ou pas le reste de la journée. Donc, quand on dit de journée, c'est avant le maghrib. Si le voyageur arrive avant le maghrib, doit-il jeûner le reste de la journée ou peut-il rester sur cette permission qu'il avait durant le voyage? Ici, il y a deux avis principaux. Le premier avis qui nous dit effectivement que le voyageur peut justement continuer à manger. Donc, peut continuer à manger, alhamdoulilah, durant cette journée, même si ce n'est pas encore l'heure du maghrib. Donc, ici, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, et c'est également l'avis de notre cher Hafidhahullah, Charles Khiyat, de la mosquée d'Aluin. Et ici, il se base sur, effectivement, le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui nous dit: Man akala awwal an-nahar falyakul akhirah. Celui qui mange le début de la journée, qu'il mange alors également la fin de cette journée, donc cette deuxième partie de journée. Donc ici, le hadith est authentique. Et Ibn Uthaymin, qui utilise également, et qui était de cette même avis, hein, de ce même avis, il nous dit également, donc en utilisant ce hadith, on lui posa la question également, et il répondit également en comparant le voyageur, donc dans cette situation, hein, lorsqu'il arrive chez lui de journée, il compare cette situation également à la femme qui a terminé sa période de menstrues durant la journée. Alors, lui incombe-t-elle de jeûner jusqu'à le maghrib ou de continuer à manger comme elle l'avait le droit initialement? Alors ici, Ibn Uthaymin compare justement, et il dit, effectivement, la femme qui a fini sa période de menstrues pendant la journée, alors elle peut effectivement continuer à manger, elle continue à manger sans problème cette journée, qu'elle rattrapera en fin de compte, au même titre que le voyageur qui arrive chez lui. Donc au même titre que le voyageur qui arrive chez lui peut continuer à manger et il rattrapera cette journée, Inch'Allah ta'ala. Donc ça c'était le premier avis, donc l'avis de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik et de notre cher Hafidhahullah. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Abi Hanifa, qui dit effectivement que le voyageur doit jeûner le reste de la journée. Donc il arrive chez lui, il doit jeûner le reste de la journée, et ceci conformément ou en comparaison. Donc il fait le qiyas avec le jour du doute lors du début du Ramadan. Donc le début du Ramadan coïncide avec la fin du mois de Sha'ban. Et des fois il peut y avoir un doute entre le dernier jour de Sha'ban et le premier jour du mois de Ramadan. Et donc si effectivement les gens pensaient que le Ramadan n'était pas encore arrivé et qu'ils n'ont pas jeûné le début de la journée, et en fin de compte c'était le premier jour du Ramadan, à ce moment-là il aurait demandé de jeûner le reste de la journée. Et ici, Abi Hanifa compare cette situation du voyageur, quand il arrive chez lui, à la situation du jour du doute. Et ici, les savants lui répondent en disant, effectivement, ce n'est pas la même situation, car le voyageur avait la permission de manger précédemment, alors que ceux qui, effectivement, se confrontaient à la situation du jour du doute, ne savaient pas, c'était par ignorance, et non pas par permission. Donc par ignorance qu'ils ont mangé, alors que le voyageur avait la permission de manger précédemment. Donc voilà concernant le statut du voyageur à son retour à son domicile. Et de manière globale, nous avons terminé, alhamdoulilah, la partie sur le voyageur. Et donc, inshallah ta'ala, dans le prochain audio, on fera donc le statut de la femme enceinte et de la femme qui allaite. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.